Voici que j'envoie mon messager en faveur de toi, pour ouvrir ton chemin. Vois de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez-toi ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion, le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : Voici venir de mon roi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser ou d'éteindre la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Oui, vous baptisera le Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, dans mes réflexions, quand je préparais cette homélie, je suis arrivé à conclure qu'il fallait retenir deux thèmes. Le premier porte sur la bonne nouvelle. Le deuxième sur la conversion. Commençons avec le premier. Si vous avez remarqué, l'évangile que nous venons de lire commence par ce thème, commencement de l'évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Mais en fait, si je parle de la bonne nouvelle, c'est parce que d'abord, quand j'étais plus jeune, il y a une question qui m'intriguait. J'avais constaté qu'il y avait certains prêtres, quand ils commençaient à lire l'évangile, à la place de dire l'évangile de Jésus-Christ selon tel, ils disaient bonne nouvelle de Jésus-Christ selon tel. Alors je me disais, pourquoi est-ce qu'ils disent bonne nouvelle? Pourquoi ils ne disent pas évangile comme tout le monde? Alors, en grandissant, je suis arrivé à découvrir en fait évangile, le terme, vient d'un autre terme grec qui a été francisé, qui est devenu évangile et qui veut dire bonne nouvelle. Voyez-vous? Donc c'est la même chose. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Marc a choisi ce titre-là? Parce que Marc est le premier des quatre évangélistes, il est le premier à avoir écrit l'histoire de Jésus. Donc la vie et le message de Jésus. Alors c'est lui qui le premier donne ce titre-là. C'est une bonne nouvelle. C'est comme ça que c'est le titre qu'il donne à son livre. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais pourquoi a-t-il choisi le titre de bonne nouvelle? Certainement qu'il s'est inspiré de la tradition qui existait déjà dans l'Antiquité. Eh bien, la bonne nouvelle, c'était présent. Elle était présente dans toute l'histoire de l'Antiquité, dans la vie des personnes qui vivaient là. Et la bonne nouvelle venait de l'empereur souvent. C'est l'empereur qui était source de la bonne nouvelle. Et quand elle venait du trône, eh bien tout l'empire se réjouissait, tout l'empire se soulevait dans la joie et voyait son avenir rose. C'était par exemple quand on annonçait l'héritier du trône. Alors l'empereur envoyait ses émissaires dans tout l'empire. Et les gens savaient, quand ils voyaient les émissaires de l'empereur arriver, tout le monde se regroupait. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Quelle bonne nouvelle est-ce qu'on nous apporte aujourd'hui? Alors on annonce que l'héritier est né, un héritier est né. Ou bien on pouvait annoncer que l'empereur envoie son pardon à tous les prisonniers. Ou bien l'empereur aujourd'hui, il réduit les taxes de tout le monde sur l'empire. Alors le peuple se réjouissait, dansait de joie. La bonne nouvelle venait chercher les gens, venait les secouer, les soulever, le remplir de joie. C'était ça la bonne nouvelle à l'Antiquité. En regardant notre histoire, le bel exemple que j'ai trouvé, moi, c'est l'annonce de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu des films et j'ai vu des documentaires aussi. Comment, quand on a annoncé que la guerre est finie, comment en Europe et dans tous les autres coins de la Terre, on dansait dans les rues, on défilait, on chantait,
on exultait, c'est la paix. Une nouveauté va commencer, une nouvelle vie, une nouvelle voie s'ouvre à nous. L'avenir est rose, dansons, jouons. Mais maintenant, la question que je me pose à moi d'abord, est-ce que l'évangile de Jésus-Christ est encore une bonne nouvelle pour moi? Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ est encore une bonne nouvelle pour vous? Est-ce qu'elle vous soulève? Est-ce qu'elle vous remplit de joie? Est-ce qu'elle vous ouvre une nouvelle voie, une nouvelle, un nouveau commencement, un nouveau départ? Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ vient vous créer, vous soulever dans l'enthousiasme? Vous et moi, nous avons besoin aujourd'hui d'une conversion. Voilà le début de mon deuxième thème. Nous avons besoin d'une conversion pour que la parole du Christ, l'évangile de Dieu, soit vraiment une bonne nouvelle pour nous. Pour cela, il faudrait un changement intérieur, un retournement, un changement de perception, de perspective, un changement de pensée, un changement de vue, de point de vue. Et ce qu'il faudrait d'abord, c'est apprendre à garder silence en nous. Comment garder silence en nous dans ce tintamarre, dans ce bruit qu'on entend qui vient de partout à l'extérieur, avec les masses médias, avec tout ce qu'on entend? Comment garder un silence à l'intérieur, un silence fort, mais un silence qui écoute? En 1971, l'ancien évêque de Rome, Paul VI, dans une de ses catéchèses, il disait aux gens, regardez, il faudrait que les hommes et les femmes modernes apprennent à retravailler leur fort intérieur. Il faudrait que nous apprenions à rebâtir notre intérieur, à le ménager, pour que nous créions un silence intérieur. Pas n'importe quel silence, mais un silence qui écoute. Un silence qui écoute la parole de Dieu, un silence qui accueille Dieu. Alors c'est pourquoi je vous invite, durant ce temps de l'Avent, ces 3 semaines au-devant de nous, eh bien, que nous réfléchissions, que nous demandons au Seigneur de faire taire des bruits autour de nous, pour que nous écoutions davantage sa parole en nous, que nous arrivions à la ressasser, à l'accueillir et à la porter en nous, pour qu'elle devienne vraiment une bonne nouvelle qui nous soulève, qui ouvre pour nous de nouvelles voies, qui nous apporte une nouveauté. Regardez, maintenant que nous avons commencé l'hiver, vous voyez la neige est tombée hier, ça commence à devenir blanc à l'extérieur. Et puis je sais que au fur et à mesure que les mois, les semaines passent en hiver, nos routes vont connaître ce qu'on appelle les nids de poules. Hein? Alors parfois ça dérange nos véhicules, ça endommage nos véhicules, nos amortisseurs surtout, etc. Mais là je me suis dit, peut-être qu'il faudrait qu'on pense aussi aux nids de poules dans notre intérieur. C'est ravin là, ce qui endommage notre intérieur, les tendances à la médisance, les tendances à l'avarice. Alors ce sont ces choses là qu'on doit essayer de combler, d'aménager à l'intérieur de nous, ces tendances là de critiquer, de écraser les autres. Ce sont des choses qu'on doit apprendre à évacuer alors que nous cheminons vers la fête de la nativité. Voilà ce à quoi consiste la conversion, le retournement intérieur. Nous dégager de nos petites envies de faire toujours des choses pour nous, ce retournement sur nous. Ce sont ceux-là les nids de poule intérieurs dans notre conscience, dans notre cœur. Mais il y a aussi cette image que nous donne le prophète Isaïe de dire, écoutez, les montagnes, les collines doivent être abaissées pour que la voix du Seigneur soit claire et que le Seigneur puisse passer et nous rejoindre. Les montagnes de notre cœur, c'est encore les montagnes de l'égoïsme, les montagnes de l'orgueil, les montagnes de l'isolement, les montagnes de séparation, les montagnes de division. Alors, ces montagnes-là sont appelées à être rabaissées, écrasées, pour que le chemin du Seigneur soit plus clair à l'intérieur. Et quand le Seigneur vient, il vient nous rejoindre directement. il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'encombre, il vient directement. Voilà le sens de notre prière aujourd'hui, qu'on va demander que le Seigneur vienne nous changer complètement dans notre intérieur, pour que quand nous écoutons sa parole, qu'elle devienne vraiment une bonne nouvelle pour nous, parce qu'elle va nous permettre de refléter cette image de Dieu qui apporte la paix, la tranquillité, la cohésion dans le monde d'aujourd'hui. Conclusion. Ce qu'il faudrait, c'est être comme le Baptiste. Parce que le Baptiste, c'est lui qui annonce la bonne nouvelle, mais c'est lui qui invite aussi à la conversion. Alors qu'il annonce la bonne nouvelle et qu'il invite à la conversion, lui-même est converti et lui-même accueille cette bonne nouvelle dans son cœur. Il en devient une en l'annonçant, vous et moi. Alors que nous nous préparons tranquillement à la venue de notre Seigneur, nous sommes appelés à être des gens baptistes dans nos milieux de vie, c'est-à-dire des personnes qui invitent à la conversion. Pas seulement qui invitent à la conversion, mais qui la vivent déjà. Qui veulent combler leurs trous, combler leurs ravins, rabaisser les montagnes. Pas seulement que nous vivons notre conversion et que nous invitons les autres à le faire, mais nous annonçons la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Que Jésus est Christ, qui est le Fils de Dieu. Et quand on l'accueille dans son cœur, qu'on l'accepte, tout change dans la vie. C'est la nouveauté qui commence. C'est un nouveau départ. C'est une grande joie qui s'exprime et qui nous fait avancer. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nous raffermir dans notre intérieur et faire de nous des gens baptistes d'aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle et pour inviter à la conversion. Amen.